enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour à vous tous. OK. Comment ça va ce matin, là? Comment ça a été cette semaine? Si vous êtes un être humain, si vous êtes un citoyen québécois, si vous êtes une personne anormalement normale ou normalement anormale, il y a toutes sortes de choses que vous avez portées cette semaine. Puis là, vous arrivez à l'église en ce dimanche avec un havre-sac invisible, un pack-sac en québécois invisible avec lequel vous avez traîné toutes sortes de choses. Le thème de ce matin, c'est bien sûr le thème des inquiétudes. Et si la vie n'était pas plus que cela? Et je veux vous encourager vraiment ce matin à aller puiser, aller chercher auprès de Dieu ces choses dont vous avez besoin. Vous savez, la Bible a beaucoup à dire sur des thèmes comme ça, et c'est toujours ce qui me fascine avec les Saintes Écritures, mais bien qu'il y ait des gens qui croient que c'est un livre dépassé, que c'est un livre un petit peu archaïque, que c'est un livre déconnecté de la réalité, de voir combien de thèmes réels sont abordés, les vraies choses de la vie, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que la vie, c'est plus que de porter tout ça. La vie n'est-elle pas plus que de courir tout le temps pour tout? La vie n'est-elle pas plus que de vivre dans la crainte constamment? La vie n'est-elle pas plus que de s'inquiéter pour tout et pour rien? La vie n'est-elle pas plus que de s'user à vouloir tout faire ou à vouloir tout avoir? La vie n'est-elle pas plus que de se retrouver en vacances, épuisé, incapable de décrocher? Et de dire, comme on dit souvent, de prendre notre soluté avec une paille? La vie n'est-elle pas plus que de passer ses nuits à ne pas dormir? La vie n'est-elle pas plus que de se tourmenter pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans? La vie n'est-elle pas plus que de se retrouver ici le dimanche à penser à sa semaine et à se retrouver la semaine à penser au dimanche? Bien sûr, la vie, c'est plus que cela. Et je vais tenter ce matin de vous convaincre par la grâce de Dieu. J'aimerais pouvoir vous porter une parole qui va donner la vie. L'apôtre Jean, dans le premier chapitre de son épître, le premier verset, parle d'une parole qu'il a vue, qu'il a goûtée, qu'il a contemplée, qu'il a entendue, qu'il a touchée. Cette parole, c'est une parole de vie, une parole qui ramène à l'intérieur de soi cette vivacité, ce goût de vivre, cet intérêt pour la vie, cette capacité d'être revivifié profondément à l'intérieur. C'est ma prière pour vous ce matin. Le texte que j'utilise est dans l'Évangile de Matthieu. Le texte va apparaître à l'écran. Et on va le lire ensemble, si vous voulez bien, au chapitre 6, du verset 24 au verset 34. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin d'eux-mêmes, car à chaque jour suffit sa peine. » Dans ce texte, Jésus poursuit une longue exhortation qui prend place dans ce qu'on appelle une grande fresque connue sous le thème du Sermon sur la montagne, une grande fresque qui composait à peu près de 109 versets, 109 versets, dis-je. Et dans cet exposé précis, Jésus aborde la vie. Vous savez, plus je tente de comprendre les gens, plus je tente de comprendre et démystifier un petit peu la vie, plus je réalise que ce qui se joue plus que toute autre chose, c'est pas les choses visibles. C'est les choses invisibles. C'est pas que les choses sont en apparence, même au regard, lorsqu'on regarde les gens, lorsqu'on observe des gestes, lorsqu'on regarde même le déroulement de la vie d'un individu, mais beaucoup de ces choses-là procèdent de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur, les vraies questions qu'on se pose. Donc, en ce moment, ici, je vous regarde, vous tous, vous me regardez, et on peut voir une représentation de qui vous êtes. Mais cela, c'est tellement limité par rapport à ce que à toute l'information qu'on peut avoir lorsque vous vous ouvrez, vous, et qu'on a accès à vos questions, à vos doutes, à vos inquiétudes, à vos, aux vrais questionnements de votre vie, aux vrais dilemmes auxquels vous avez à faire face. C'est à l'intérieur que ces choses-là se jouent. Et le thème des inquiétudes est un thème vraiment rattaché à ce qui anime trop souvent, profondément, le cœur humain. Et Jésus l'adresse, parce que Jésus, c'est le prince de la vie. Et le Seigneur nous amène une parole de vie ce matin pour adresser nos problèmes, les problèmes de nos vies, des conditions de nos vies, parce qu'il veut qu'on soit capable de tirer le meilleur parti de cette existence sur la planète Terre, sur ce long chemin qu'on a à vivre. Mais qu'est-ce qu'au juste que l'inquiétude? On va regarder certaines définitions ensemble. L'inquiétude, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. C'est un trouble ou un état pénible, encore une fois, causé par la crainte, l'appréhension d'un danger, par les soucis. C'est un état de préoccupation, de tourment qui empêche le repos et la sérénité. Le terme qu'on trouve dans les Saintes Écritures, c'est un terme grec, mérimna, qui dit distraire, aller dans toutes les directions. Puis le verbe associé au terme prend le sens de diviser, désunir, partager, être anxieux, se soucier, dans le sens excessif du terme. Encore une fois, c'est intéressant toujours de découvrir ces termes-là, parce qu'encore une fois, le problème qu'on a, c'est, probablement vous le vivez souvent, peut-être pas à l'heure actuelle à ce moment même, mais dans notre vie, on essaie de se convaincre qu'on n'a pas à s'inquiéter pour telle ou telle chose. On essaie constamment de se ramener. Est-ce que je peux arrêter de penser à cela? Je dis souvent à des gens qui viennent me voir, avez-vous le goût le soir, avant de vous coucher, de vous dévisser la tête et de la mettre sur le bureau? Pour que ça arrête de penser tout petit peu, pour que j'arrête de ronger mon frein, pour que j'arrête de ruminer toutes sortes d'autres choses. Mais c'est ça le sens des inquiétudes. À dépit du fait qu'on voudrait pas, il y a cette division, ce partage intérieur qui fait que je voudrais pas être absorbé, mais c'est comme, encore une fois, une espèce de loi qui lutte contre mon entendement, que je veux pas penser à ça, je veux pas m'imaginer cette chose. Les parents essaient de ne pas se tracasser pour les enfants, mais l'enfant part à l'école, par exemple, le premier jour d'école, et la mère, elle essaie de se raisonner, il est pas en danger, on essaie de rationaliser tout ça, mais on a beau vouloir mettre l'énergie là-dessus, il y a comme quelque chose qui revient constamment. Mais presque à chaque stade de la vie, les enfants se tracassent pour bien des choses. Et j'aimerais vous dire que dans ce monde moderne dans lequel on vit, on rajoute constamment toutes sortes de fardeaux sur les gens. En ce moment, à partir de janvier, c'était au Québec, la course effrénée pour les REER. Puis à ce moment-là, ce qui éveille, ce que tous ces pubs réveillent, c'est toujours nos anxiétés par rapport tout d'un coup qu'à la fin de ta vie, au moment de ta retraite, au moment de ce qu'on appelle l'âge d'or. Pourquoi on appelle ça l'âge d'or? Parce que ça coûte cher, ça rentre jusque-là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or. Et on commence à jouer avec nos anxiétés, nos inquiétudes. Tout d'un coup, tu finis sur la paille. Après avoir travaillé pendant ta vie 65 ans, et tu vas retrouver que tout d'un coup, il n'y a rien. Puis là, toutes sortes de choses se réveillent à l'intérieur de nous. On sait, moi, j'écoute souvent le matin, maintenant, à travailler, le docteur Lapointe à 98,5. Puis à chaque matin, si je l'écoute, là, j'ai un problème ou avec mon cholestérol, ou avec mon diabète potentiel, ou avec mon stress, ou avec... À un moment donné, à chaque jour, c'est suffit sa peine. C'est-à-dire qu'on a une peine pour chaque jour de la vie, en écoutant ces dimensions-là. La réalité, c'est que tout ce qui nous entoure nous porte dans cette direction-là. Là, les réels viennent de finir, puis c'est les impôts qui s'en viennent. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai pas de tracas avec ça, je gagne pas assez cher, mais il y a certains, par exemple, ça peut les travailler parfois. La réalité, c'est qu'on porte des choses. Puis souvent, même quand on prend du temps avec les enfants, nos enfants modernes, les enfants de cette génération-là, on réalise pas souvent les craintes qu'ils peuvent subir. La pollution, le réchauffement de la planète, les enfants nous posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver avec la planète? La couche d'ozone, la mondialisation, tous ces éléments-là qui, lorsqu'on était petit, il y a 30, 40, 50 ans, on se posait pas ces questions-là. Donc, on est dans une espèce de bombardement de toutes sortes d'informations. On est submergé à un point tel que c'est pratiquement impossible de ne pas s'inquiéter d'arriver, on a l'impression que c'est ça. Mais Jésus, encore une fois, le Seigneur a abordé cette dimension-là en donnant certains principes qu'on va voir ce matin. Donc, dans le texte qu'on vient tout juste de lire, Jésus fait appel à deux types d'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger et boire, et ne vous inquiétez pas de votre corps, de ce que vous serez vêtu, de comment vous serez vêtu. Première inquiétude ce matin, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Le problème que ça met à jour, c'est un problème de consommation. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus a axé cette dimension-là? Et j'essaie de voir comment le contexte dans lequel ce sujet est abordé dans le temps, à l'époque de Jésus, comment ce texte pouvait être actuel avec nous. Je me disais, à l'époque, il n'y avait pas cette société de consommation. Encore une fois, quand on regarde l'humain, vous savez, les choses ne changent pas tant que ça. Il y a des gens qui, partout à travers ce monde, vont se tracasser pour la nourriture du jour même. Dans bien des sociétés, dans bien des pays en voie de développement, le souci du matin lorsqu'on se lève, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir quelque chose à manger? Mais c'est pas juste le problème pour eux, c'est aussi le problème pour bien des gens qui constamment sont inquiétés par ces conditions-là. On est environné dans un univers qui nous propose toutes sortes de choses dans la vie, qui fait qu'on commence à générer à l'intérieur des gens des besoins que j'appelle artificiels. Des choses dont on a besoin, mais dans le fond, on n'a pas réellement besoin de cela. Et si vous regardez un petit peu le pôle de notre société, vous allez vous apercevoir qu'on est dans un dilemme incroyable. Ceux qui, hier, par exemple, ont lu le Journal de Montréal, il y a un méga dossier sur l'obésité, en particulier dans tous les pays de l'Occident, et surtout aux États-Unis, et le Canada s'amène dans cette direction-là. Puis on est fasciné dans une société d'opulence où on devrait être capable de prendre en charge nos vies, de ce qu'on appelle une société évoluée, de voir comment les gens ont de la difficulté à composer avec ça. Il y a une guerre incroyable avec la nourriture, avec des messages contradictoires qui surviennent. On nous propose des mets succulents et des régimes en même temps. On nous propose de toutes sortes de mœurs par rapport à la nourriture. Les plus grands best-sellers en ce moment, savez-vous, c'est quel genre de livre? C'est des livres de cuisine. Puis simultanément avec ça, vous avez Nautilus Plus. Et tout on a l'impression qu'on est tiraillé d'un bord à l'autre, complètement ballotté entre deux univers. Puis il faut réussir à tirer notre épingle du jeu de tout ça. Et c'est pas évident. Et bien certain qu'il y a des gens qui ont encore plus de difficultés avec ça parce qu'ils ont déjà cette espèce de prédisposition génétique à avoir plus de vulnérabilité à prendre du poids et tout ça. L'inquiétude numéro un, donc le problème de consommation, et la peur sous-jacente à cela, c'est l'insécurité. La peur de manquer. Tout d'un coup qu'on manque de nourriture. Oubliez pas, ce qui est fascinant, c'est que cette peur-là, elle est présente ici pour nous dans un pays d'opulence. Puis paradoxalement, quand on va dans les pays en voie de développement, la peur de manquer, elle n'est pas là. C'est comme si la notion ou la pensée n'est pas présente. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé qui est vraiment de l'actualité de la vie moderne. Mais Jésus dit, la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que de manger. La vie, c'est plus que de se nourrir. Il nous amène au-delà, ce qu'on appelle, nous, dépasser le besoin primaire de manger et d'aller au-delà de tout ça, d'une vie qui est plus que cela. D'une vie dont la préoccupation première n'est pas « qu'est-ce que je vais manger? » mais autre chose. Si vous êtes avec moi ce matin, deuxième inquiétude qui est manifestée dans le cœur de ce verset, « ne vous inquiétez pas pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Le problème de fond, c'est l'apparence et la performance. Encore une fois, écoutez-moi bien. Je sais que toutes les dames aiment ça être bien vêtues. Aiment ça bien paraître et je ne remets pas en question tout ça. Mais c'est étonnant de voir comment on est otage de des périodes, des modes, des tendances. Et tout, on est constamment ballotté. Et le message qui est véhiculé dans tout cela, c'est que pour être aimé profondément, pour être accepté, il faut que tu paraisses. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui, à force de paraître, pensent qu'ils vont finir par être. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ce matin? Encore une fois, c'est certain que si aujourd'hui je serais arrivé en jean ici, un peu sale, comme un gars qui sort dans le dessous de son automobile en train d'avoir fait son changement d'huile, vous diriez que ça ne cadre pas toujours avec le décor. Mais c'est quoi la fonction de tout ça? De toujours être aimé, de toujours être accepté par les gens? Il y a un énorme poids qui est vécu sur les gens dans cette dimension-là. Puis laissez-moi vous dire qu'on pourrait peut-être voir ou identifier ce problème comme étant un problème temporel, mais c'est plus qu'un problème temporel, c'est un problème qui est spirituel. Faites un exercice avec moi. Si vous réfléchissez un tout petit peu à tout ce qui a rapport avec l'apparence, vous écoutez les slogans des campagnes publicitaires sur l'apparence ou des boutiques, tout ça, c'est étonnant de voir comment les choses sont spirituelles. Par exemple, si vous vous promenez dans un centre d'achat, dans une grande surface, et vous passez devant un magasin qui s'appelle Metropolis, vous remarquerez qu'en dessous de l'annonce, c'est marqué quelque chose. Il y en a qui savent ce qui s'est marqué en dessous de l'annonce de Metropolis dans les boutiques? C'est marqué l'esprit de vie. Hein? Metropolis, l'esprit de vie? Ça veut-tu dire que si je m'achète du linge dans cette boutique-là, ma vie va être transformée? Je peux accepter Metropolis comme mon sauveur personnel, peut-être. Pourquoi ils disent pas Metropolis, les plus beaux habits, les plus beaux vêtements, ou à la fine pointe de la mode, mais on parle de l'esprit de vie, on parle du parfum éternité. Ah, si je me mets ça, je vais devenir immortel? Bien sûr que non, mais pourquoi on utilise un thème qui est spirituel? Vous remarquez ces phénomènes-là? Peut-être vous dites, oh, pasteur Morissette en est déraillé ce matin, il a probablement pris quelque chose, je ne sais pas trop. Je vais vous illustrer un grand dilemme qui se passe, vous allez voir pourquoi dans quelques instants, qui fait qu'on est, on est quand même au cœur de toute une guerre, de toutes des tendances qui sont profondément spirituelles derrière tout ça. Êtes-vous encore là quand même ou je me suis retrouvé tout seul avec ces raisonnements-là? Le problème de fond est spirituel, je vais tenter de vous prouver pourquoi. Si vous voulez tourner avec moi dans le livre de Genèse, le verset va apparaître à l'écran. Au chapitre 3, au début de la tentation, c'est-à-dire au verset 6, au plein cœur de la tentation plutôt, j'ai juste retiré une portion du verset qui nous dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, consommation, apparence. » Et qu'il était précieux, dis-je, pour ouvrir l'intelligence, elle en prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et l'en mangea. Attends, regardez-moi bien ici, là. Regardez-moi, s'il vous plaît. Ne me regardez pas tous, je veux que tout le monde me regarde. Ici, là, dans ce texte-là particulier, se joue le même dilemme que vous et moi avons encore à faire face. La réalité, c'est qu'il y a une transaction qui est sur le point de se passer. À cette dimension particulière, lorsque Ève, et avec Adam bien sûr, est attirée par cette dimension-là, il y a quelque chose qui est éveillé à l'intérieur d'elle, un besoin qui est créé, qui est éveillé, pas qui est créé, mais qui est éveillé. Puis Adam a commencé à faire Adam et Ève ont fait une transaction. En fait, là, si vous regardez la pensée, elle est suivante. Adam et Ève ont troqué quelque chose. Ils ont fait du troc. Ils ont troqué quelque chose. Ils ont troqué l'invisible et le spirituel pour le visible et le matériel. Ils ont troqué leur relation avec Dieu pour un objet, pour une possession, pour une chose. Ils ont troqué ce qui était éternel pour le temporel et le temporaire. Et c'est la même chose que vous et moi, avec lesquels on compose à chaque jour notre vie, on n'est plus dans cette immense transaction. Est-ce que je m'occupe de cela ou je m'occupe d'autre chose? Est-ce que dans bien des affaires, on va le voir dans quelques instants, regardez bien le grand dilemme auquel on a fait face tous et chacun. Dans la vie moderne, les gens cherchent à combler leur vide intérieur par des choses extérieures. Et la clé ce matin est la suivante. Rien de ce qui est extérieur à moi peut venir combler ce qui est à l'intérieur de moi. J'ai beau manger tout ce que je veux, j'ai beau manger dans les plus beaux restaurants, j'ai beau essayer d'acquérir les plus grands objets possibles, rien de ce qui est matériel extérieur peut venir combler ce qui est dans les profondeurs du cœur humain. Deuxième dilemme, les gens cherchent une réponse spirituelle dans les choses matérielles. Troisième dilemme, les gens cherchent des valeurs éternelles dans des choses temporelles. On est dans la génération du ici et maintenant, qu'on ne pense plus à ce qui va arriver un petit peu plus tard. Les gens, quatrièmement, cherchent l'invisible dans le visible. Et dernièrement, les gens cherchent à combler le relationnel au travers des bebelles. Excusez l'expression, mais il fallait que ça rime un petit peu. On le dit comme parents modernes. On achète trop souvent des choses à nos enfants parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Vous savez, à la fin de notre vie, quand vous et moi, on va être âgés, on va faire le bilan du passé, je vous le dis, là, on ne regardera pas tout ce qu'on a acheté. On ne se posera pas la question, si ma vie, ça a commencé, là, si cette voiture, dans le fond, j'ai passé à côté de quelque chose dans ma vie. Cette voiture-là, en 1999, quand elle sortit, ce modèle-là, j'aurais dû l'avoir. J'ai passé à côté. Si votre vie est à recommencer, ce n'est pas ces choses-là que vous allez vous poser comme question. Posez pas ce que vous allez pu accueillir, la maison que vous allez pu avoir, les voyages que vous allez pu faire. Bien sûr, c'est pas mal en soi. Mais quand cela devient l'obsession majeure de notre vie, on passe à côté de la réalité de ce que Dieu a pour nous. La vie, c'est plus que ça. C'est pas moins que ça. La vie, c'est pas, j'ai pas le droit d'avoir ça. Je vous dis, la vie, c'est dépasser ça. Faut aller au-delà de cette dimension matérielle. Faut passer du matériel à quelque chose de spirituel parce que c'est ça qui dépasse, qui transcende toute chose. On n'aura pas acheté tout ce qu'on veut aux gens. Ce que les gens crient du plus profond de leur cœur dans la vie moderne, c'est de relations significatives. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime comme je suis, en dépit de ce que je suis, malgré ce que je suis. C'est ça que j'ai besoin dans la vie. J'ai pas besoin que vous m'achetiez quelque chose. J'ai pas besoin que vous fassiez des efforts. On a besoin, c'est le cri du cœur humain, acceptation. On a besoin de ces éléments-là. Aucun objet, aucune chose, aucune bébelle, je ne peux jamais remplacer cette dimension-là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, le danger en ce moment, c'est que l'Église soit à ce point, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église Nouvelle Vie nécessairement, je parle de l'Église en général, soit tellement sous influence extérieure qu'on ait cette espèce de déviation-là. C'est nous le garant de la vie. Le christianisme, c'est pas une religion, c'est un style et un mode de vie. C'est pas nous qui devrions regarder la société en disant « Ah, oh, j'aimerais tellement voir ce que mon voisin a. Ah, oh, j'aimerais tellement voir le nouveau machin, le nouvel truc. J'aimerais tellement vivre la vie des gens riches et célèbres. » C'est pas ça. C'est les gens d'extérieur qui regardent notre style de vie et disent « Moi, j'aimerais tellement ça vivre comme eux autres. » On a l'impression qu'ils sont détachés quelque part. Écoutez, avez-vous des inquiétudes, vous autres, des chrétiens? Avez-vous des fardeaux dans votre vie? Puis ils nous regardent en disant, je peux-tu l'avoir, ce que tu veux? Je peux-tu avoir cette vie-là? Puis là, les autres pourraient se retourner devant nous et nous dire, mais il me semble que la vie, c'est bien plus que ce que nous vivons, c'est ce qu'eux vivent. C'est ça, cette réalité-là. Malheureusement, on est pris dans un conflit entre deux mondes. Il y a une guerre entre deux royaumes, dans laquelle nous, on est souvent entre les deux. On aimerait souvent transférer dans le royaume de Dieu en disant, maintenant, c'est fini, on va se préoccuper de cela. Mais nous aussi, dans cette guerre spirituelle dans laquelle on est constamment bombardé par toutes sortes de choses, qui fait que souvent, on perd de vue nos priorités. Le combat, le dilemme qu'on vit tous et chacun, et qu'on vit comme croyant aussi, qu'on n'est pas à l'abri de tout cela. Je m'inquiète, tu t'inquiètes, il s'inquiète, nous nous inquiétons. 40% du temps, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. 30% du temps, on s'inquiète pour des choses que l'on ne peut changer. 12% du temps, on s'inquiète, mais dans le fond, on se morfond et on critique, souvent faussement, parce qu'au fond, on se sent inférieur. Comment ça que je n'ai pas ça, moi? Parce que tu n'as pas pris les moyens pour l'avoir. 10% du temps, on s'inquiète pour la santé, quand en fait, elle se détériore par le stress et les inquiétudes. 8% du temps, on s'inquiète pour des situations où l'on pourrait faire quelque chose, mais pour lesquelles on ne fait souvent rien. 5 raisons bibliques ce matin pourquoi il ne sert à rien de s'inquiéter. Je vais passer rapidement. Il ne sert à rien de nous inquiéter parce qu'en fait, les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie. Jésus disait, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La réalité est la suivante. Encore une fois, je reprends la pensée d'un peu plus tôt que j'ai développée. C'est que la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que de vivre dans le temporaire. La vie, c'est plus que de vivre dans la sécurité en disant, il faut que je garde ça, il faut que je sauvegarde ça. La vie, c'est plus que ça. La vie, c'est au-delà de tout cela. J'étais fasciné ce matin en regardant la chorale des jeunes, parce qu'on peut beaucoup apprendre des enfants. Je les regardais, là, puis je disais, c'est drôle, ils ne semblent pas stressés. Vous allez me dire, oui, mais ça paraissait pas à l'extérieur, parce que Marcel, vous avez dû, ça vous êtes peut-être plus avisé que ça, là, dans votre profession, être capable de voir qu'il vivait quelque chose à l'intérieur. Je ne suis pas sûr. J'ai remarqué à Jocelyn qu'une jeune fille qu'on n'identifierait pas, qui s'est jouée dans le nez pendant au début de la chanson, puis qui plaçait sa robe de main, OK? C'est pas une robe, là, mais vous comprenez le phénomène. Et puis je me disais, elle ne se préoccupe pas de ce que les gens vont dire. Sa mère, elle doit se dire, par exemple, si elle est ici en ce moment, ah, ma fille avait le doigt dans le nez. J'ai honte. Que vous ayez honte, madame, ça c'est votre problème. Votre fille n'avait pas honte, elle. La réalité, c'est qu'ils ont cette capacité de dépasser toutes les inquiétudes que nous avons, de paraître, de bien paraître, d'avoir. C'est pas ça qui est si important pour ça. Encore une fois, c'est ça le sens de la vie. On essaie de ne pas s'inquiéter. On met nos énergies, nos efforts à ne pas s'inquiéter, à contrôler tout ça. Parce que dans le fond, les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie, des vraies choses, des vraies valeurs, de ce qui est vraiment important. Vous savez, quand on voyage beaucoup, on arrive chez les gens. Puis quand les gens arrivent, surtout quand on a une position de pasteur, les gens, ils déploient le décorum. Avant, ils ont probablement une discussion très intense avec leurs enfants. Le pasteur va venir à la maison, il va habiter chez nous pendant 2 jours. Le premier parvenu qui fait une chicane avec l'autre, il est mort. OK? Si je perds la face devant le pasteur invité, vous êtes fait, vous allez l'avoir pour 1 an. OK? Puis là, les gens arrivent, ils ont tout fait le décorum, la table et tout ça. Puis moi, j'ai du fun avec ça parce que je les vois travailler fort. Hein. Puis je leur dis, écoutez, là, moi, je suis un petit Québécois de classe moyenne qui vient d'une petite ville qui s'appelle, je ne vous le dirai pas, là, vous m'acceptez comme je suis, là, à date. Puis ce qui m'intéresse, souvent, laissez faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Puis souvent, je vais demander au monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, monsieur? Puis là, il est inconfortable. C'est pourquoi vous êtes inconfortable? La vie, c'est quoi, là? Faut vous en mettiez ce matin? Pas obligé. C'est quoi l'intérêt du Seigneur envers les gens? C'est leur personne, c'est ce que les autres vivent, c'est ce qui se passe dans cette réalité-là. Puis on a créé cette espèce de phénomène-là de décorum, de faire attention. Mais c'est certain qu'on ne veut pas avoir honte à personne, qu'on ne veut pas faire honte à personne. Le défi, c'est de passer au-delà de ça, parce que la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Deuxième raison biblique, les inquiétudes n'augmentent en rien la qualité de notre vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Dis-moi, pasteur, on parle de durée. Oui, mais à l'époque, le prestige d'une vie ou la qualité d'une vie était mesurée à la longévité. Et Moïse vécut tant d'années. Et tel autre vécut tant d'années. Donc, il y a un élément de quelqu'un qui arrive au sommet de la vie, qui est repu de la vie par la quantité d'années. Les inquiétudes, là, ça n'ajoute pas des années, ça en enlève. Ça enlève la qualité profonde de ce que nous vivons à l'intérieur, de ce que nous devrions vivre à l'intérieur. Troisième raison. Elle révèle notre manque de foi. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il, j'ai de la misère avec ce mot-là ce matin, vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi? Vous avez vu ces expériences où à un moment donné, que ce soit l'achat d'une maison, une promotion au travail, la quête d'un emploi, vous tracassez, vous vous rongez, vous vous usez, vous ressassez ça constamment. À partir du moment où la réponse survient, la réponse positive survient, ça y est, ça fonctionne, vous vous dites, je suis un peu déçu parce que j'aurais dû croire. J'aurais dû croire avec un certain contentement. J'aurais dû faire confiance. Mais malheureusement, mes peurs, mes anxiétés ont pu le déçu. On passe souvent à côté de ces éléments. À quoi ça m'a servi de muser tout ce temps-là? Et c'est justement ça à quoi fait allusion Jésus. Tracassez-vous pas pour ça. Parce qu'il y a une question de foi là-dedans. La foi, ce que j'appelle la foi au quotidien, la foi dans les choses de tous les jours. Souvent, on parle d'une grande foi pour de grandes choses, pour de grandes œuvres. Il y a la foi du quotidien, la foi d'un parent avec ses enfants, la foi d'un conjoint avec son mari ou son épouse, la foi dans mon travail, la foi qui s'inscrit dans la vie de tous les jours, dans les événements et les réalités de la vie de tous les jours. Quatrièmement, elle révèle notre manque de maturité spirituelle. Car toutes ces choses... Ce sont les païens qui les recherchent. Le sens de païen, c'est les non-croyants. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas vous. Moi, si je vous voyez là, encore une fois, on met la différence dans cette réalité-là. Elle révèle notre manque de maturité spirituelle, de ce sur quoi notre vie devrait reposer. On ne devrait pas être affecté par les choses qui affectent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre espérance est au-delà du temporel. Notre espérance est au-delà de la limite humaine. On a un Dieu qui transcende et qui dépasse tout ça. Toutes ces choses, c'est les non-croyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu qui les recherchent. Mais votre Père Céleste vous sait ce dont vous avez besoin. Faisons-lui confiance. Cinquième raison, les inquiétudes ne changent rien à notre condition. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, que le lendemain aura soin de lui-même. Les inquiétudes n'empêchent jamais les lendemains d'être difficiles, mais elles volent la joie du moment présent. Il faut se travailler à l'intérieur. Il faut se travailler à l'intérieur. On se tracasse pour le lendemain sur quelque chose dans lequel on n'a aucun pouvoir. Alors, je vais vous proposer 7 clés dans quelques instants, bien, bien pratiques, pour vous aider un petit peu à saisir ces aspects pour pouvoir émerger de tout ça. Mais gardez à l'esprit encore cette dimension-là, que les inquiétudes, que les tracasseries qu'on a, que les tracas qu'on a profondément, de ce qui nous range, ce processus-là intérieur est très, 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 très peu productif. Ça ne donne pas grand-chose, ça ne donne rien, ça ne change rien à la condition. Puis d'ailleurs, vous le savez, vous l'avez vécu. Combien de fois vous vous êtes tracassé pour des choses qui ne se sont jamais réalisées? Okay? Quand on fait le survol, reculant dans l'air un tout petit peu votre vie, ayez les pensées des choses qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous usez à la corde, vous tracassez profondément. Puis, vous avez vu le dénouement des choses? Les scénarios qu'on s'est créés les plus sombres possibles, dans la majorité des cas, ne se sont jamais produits. On s'est usé pour rien en rapport avec ces dimensions-là. Je vais vous proposer ce matin 7 clés pratiques pour vous aider à composer avec les inquiétudes, à partir des versets qu'on vient tout juste de lire. Première clé ce matin, regardez à la création et à la nature. Le Seigneur lui-même dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. » Un peu plus loin, il dira, « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le texte parle de regarder, de considérer, d'observer. Là, en ce moment, êtes-vous en train de vous dire, pasteur Morissette, êtes-vous en train de nous dire qu'il faut regarder aux petits oiseaux pour comprendre un petit peu comment on fait? Absolument. Absolument. Il y a un petit côté un peu granola, un peu nature, un peu, pas naturiste, mais nature, OK, pour composer avec cette réalité-là. Regardez-moi bien. Bien souvent avec les gens, les gens viennent des fois chercher de l'aide, puis on a discuté avec Dieu, et ils sont torturés à l'intérieur, puis ils ne comprennent pas ci, puis ils ne comprennent pas ça. Puis souvent, toute leur vie spirituelle est, comme, je pourrais qualifier comme en désharmonie. Puis souvent, je leur dis, vous savez, le Dieu qui vous anime en ce moment, vous avez l'impression que c'est tellement tortueux et torturant et tourmenté. Est-ce que vous êtes capable de croire que ce Dieu-là est le même Dieu qui a créé la nature? Puis là, dans le temps, je leur dis, il y a une espèce de fossé qui se manifeste. Effectivement, quand je regarde la nature, je ne vois qu'harmonie. Vous savez, la désharmonie qui est en ce moment dans la nature, vous savez par qui elle est causée, hein? Elle est causée par la main de l'homme. C'est nous qui avons saccagé le jardin, comme on dit communément. La nature en elle-même est cette harmonie. Le printemps est en train d'émerger au Québec, là. Les prochaines semaines, on va voir la vie qui va reprendre. Puis il y a cette espèce de force puissante. Et derrière tout ça, c'est le Dieu créateur. C'est mon Père qui a fait ça. Alors, quand je me mets à considérer cela, à considérer l'espèce de paix, de quiétude qui se manifeste au travers de cette nature-là, je constate que ce Créateur-là est le même qui veut créer ma vie, qui veut recréer quelque chose dans ma vie, qui veut changer ma vie, mettre cet état d'harmonie. Encore une fois, faites-le cet exercice-là. Prenez le temps nécessaire. Combien de fois, mais on va aller se promener juste en forêt, on se dit, écoute, comment ça se fait que je suis tellement en quiétude ici? Parce que t'es dans un contexte d'harmonie et non pas de tourmente et de contrainte et constamment ces éléments-là. Je vous le dis, c'est ça cette réalité-là. Jésus dit, regardez, observez autour de vous, regardez les oiseaux, est-ce que les oiseaux se tracassent pour ce qu'ils vont manger? De leur apparence, de quoi que ce soit, rien de cela a d'importance dans le contexte de la nature. Deuxième clé, réalisez votre valeur aux yeux de Dieu. Le texte dit, je reprends, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit, ce qu'on vient tout juste de voir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Un autre texte, dans verset 10 dans l'Évangile de Luc, dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Drame qu'on vit dans notre vie, c'est qu'on a l'impression qu'on a peur que Dieu nous oublie. Et cette peur-là n'est simplement qu'une manifestation du sens de valeur qu'on n'a pas, de cette perte de conscience de la valeur qu'on revêt aux yeux de Dieu. Autant, il y a quelques instants, j'aurais pu passer 20 minutes à vous parler de la nature, on disait c'est tellement Dieu, la nature et tout ça, mais Jésus ici n'est pas venu pour la nature. Il n'est pas venu pour les moineaux. Il n'est pas venu pour toutes les bêtes, de tout acabit. C'est pas pour ça qu'il est venu. Le summum de la création, c'est la personne humaine. Et c'est pour ça que c'est le summum du geste du don de Jésus-Christ est tellement important parce qu'on doit racheter cet élément-là. On ne rachète pas ce qui n'a pas de valeur. On envoie ça ailleurs, on envoie ça au dépotoir. L'immense rachat de Dieu ne fait juste que nous conférer cette dimension-là de la valeur qu'on a à ses yeux. On vaut plus que des passereaux. Et j'ai ressorti le texte du « Ne vendons pas deux passereaux pour un sou » parce que des fois, on a l'impression à l'intérieur qu'on est le deuxième passereau. Ça, c'est le deal supplémentaire. Dans le fond, c'est le prix, c'est normal, mais on va attendre un deuxième. Mais quelle est la valeur du deuxième? Le premier, au moins un sou. Le deuxième, il vaut quoi? Il vaut absolument rien. Puis le texte mentionne qu'on vaut plus que cela. On vaut plus que cela. Si Dieu se soucie de ces éléments-là, et c'est ce que le texte mentionne, à combien plus forte raison il se soucie de moi? Maintenant, je sais que c'est dur, on est parfois dur avec soi-même, ou dur d'entendement par rapport à cette réalité-là, mais vous devez saisir que vous avez une valeur aux yeux de Dieu, que Dieu se soucie de vous. Mais que souvent, dans la tourmente de tous les événements de la vie quotidienne, on perd de vue cette réalité-là, puis on se détourne et on se retrouve avec nos inquiétudes, avec nos tracasseries, avec tout ce qui nous tourmente, nos anxiétés, nos craintes et tout ça. Troisième clé, réfléchissez à la réalité de vos inquiétudes. Le texte mentionne, dans Matthieu toujours, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Quelqu'un a dit un jour, les inquiétudes sont un cycle complet de pensées inutiles tournant autour du pivot de la peur. Belle image. où ce qu'on tourne autour de toutes sortes de situations, où ce qu'on soupèse, où ce qu'on réfléchit, où qu'on ressasse, qu'on brasse de côté de l'autre des choses. Quand en fait, la réalité, c'est qu'on ne change rien. Tout ça prend sa racine dans nos pensées, dans notre tête, dans notre façon. Il faut réfléchir. Pourquoi je me tracasse en ce moment? Pourquoi j'essaie de mettre tellement d'énergie là-dessus? D'ailleurs, j'aimerais vous dire que vos inquiétudes me donnent de l'information sur vous. Que vos inquiétudes me donnent de l'information sur vos valeurs à vous. Cette réalité de ce qui se passe, de ce à quoi vous mettez l'énergie, de l'intérêt, ça me donne de l'information sur vos priorités dans la vie. Parce que laissez-moi vous dire qu'on ne se tracasse pas tous pour la même chose. Puis des fois, c'est certain que des fois, c'est parfois difficile de ne pas juger certaines personnes en disant « Je me demande pourquoi qu'ils se tracassent pour ça. Je ne me tracasserai pas pour cela. » Mais à chacun, on porte des choses. Et c'est pour ça que chacun doit faire cet exercice-là, dire « Pourquoi je me tracasse en ce moment? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? » De reconsidérer ces choses-là, de voir un peu le sens derrière toutes ces choses-là. Réalisez ou réfléchissez à l'arrêté de vos inquiétudes. Arrêtez-vous pour réfléchir. Un des phénomènes modernes auxquels on a fait face, c'est que la vie est tellement rapide, il y a tellement cette frénésie d'activité qu'on ne s'arrête rarement que pour réfléchir. Très peu ici, je ne fais pas de sondage en main levée, vous vous asseyez parfois avec vos problèmes devant votre bureau en disant « Ok, je vais mettre ça sur le problème, je vais mettre à réfléchir en ce moment. » Ok. Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? Ok. Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Juste exercice-là, juste de réfléchir. De quoi j'ai peur dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai peur qui arrive? Pourquoi j'ai peur de cela? Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver? Et là, voyez-vous, on commence à partir la machine. Okay? De réfléchir, de soupeser. Mais souvent, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est pris dans la roue qui tourne constamment. Les activités frénétiques de la vie, les demandes incessantes, le courrier, les emails, le bureau, le patron, les enfants, les activités parascolaires, le mari, l'épouse. On est constamment, on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Ce qui est fondamentalement chrétien, c'est la capacité qu'on a de s'arrêter, de méditer, de réfléchir, de prendre ce temps à part. Et de réfléchir, de reprendre le pouvoir sur notre situation, de prendre ce temps, avec le Seigneur même, à chaque jour. Qu'est-ce qui muse comme ça, là? Qu'est-ce qui se passe? J'arrête la machine. Vous savez, vous allez réaliser, des fois, on n'est même pas capable de l'arrêter, l'espèce de machine. Des fois, vous allez même sentir la frénésie physique. Ceux qui ont l'occasion là, d'aller dans le sud, dans les pays du sud, Mexique et tout ça, avez-vous remarqué comment vous arrivez à l'aéroport quand vous arrivez au Mexique? Vous arrivez, comme on dit en québécois, speedé. Vous êtes sur le stress. Puis le douanier qui est trop slow, là, qui est trop lent, là, il vous agresse. Mais il peut-tu, c'est long des douaniers, des bagages. J'ai hâte d'aller me reposer. Je vais courir jusqu'à l'hôtel. Je vais courir jusqu'à la plage. Puis là, je m'écrase à la plage. Ah, fin, je suis en vacances. OK? Puis avez-vous remarqué quand vous revenez à Montréal? OK? Vous êtes parti en courant, vous êtes revenu en marchant. Ouais, c'est un petit stressé comme ça. On relaxe. Wow. Non, mais prenez le temps de vivre. C'est important dans la vie de prendre son temps. T'étais en marché comme ça pendant une semaine, puis là, la frénésie intérieure. Pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Quatrièmement, revenez aux vraies priorités. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Le texte mentionne, quand vous entendez le texte, car là où est ton trésor, là sera ton cœur, c'est qu'on devient attaché à ce à quoi on s'investit. Le cœur, c'est un symbole affectif. C'est-à-dire, ce que je considère comme étant une valeur et important pour moi, mon trésor, ça crée un effet d'attachement. On s'attache à ce qu'on considère la valeur. Ça, touche pas à ça, ça c'est important. Touche pas à ces papiers-là, touche pas. On met nos bijoux dans des écrins, on met certaines de nos valeurs dans un endroit parce qu'on veut les protéger, parce qu'on considère que ça a de la valeur. On s'investit, puis il faut faire attention à tout ça. Mais des fois, il faut revenir à la nouvelle priorité. Il y a quelques années de cela, j'étais au supermarché, et moi, j'ai du fun des fois avec les gens. Et j'allais là, puis j'observe. Les autres ne savent pas qu'ils sont sous le scan de mon observation, puis ils ne savent pas qu'ils vont finir sous illustration dans une prédication. De toute façon, là, c'est pas grave, ils ne viennent pas à l'église ici, donc il n'y a pas de danger que ça revienne contre moi. Puis je suis debout, puis la caissière est en train de passer la commande de la dame qui est en avant de moi, juste avant moi. Et les deux, ce sont des amis qui commencent à discuter ensemble. Elle dit, « Ouais, c'est le printemps. »« Ah ouais, c'est le printemps. » Elle dit, « Pourquoi tu dis ça? » Elle dit, « Mon mari a commencé. » Elle dit, « Il a commencé. » Il a commencé à, excusez l'expression pour nos amis de la France, il a commencé à chaîner son bicycle à gaz. Il a commencé à asticoter, ou astiquer plutôt, sa motocyclette. Elle dit, ouais. Elle dit, il doit passer des heures là-dessus. Hein? Ben oui. En tout cas, s'il me frottait aussi longtemps qu'il frotte sa moto, mon mariage serait transformé. Fait que moi, je dis à la dame, je vais vous donner un petit conseil. Rentrez donc sa moto dans votre chambre à coucher et mettez-la à côté de lui dans le lit. OK? Elle dit quoi? Elle dit, moi, je vais aller coucher dans le cabanon. Bien, ça, écoutez, je ne peux pas vous dire aller coucher dans le cabanon, là. La réalité, c'est les priorités. C'est qu'on passe à côté. Comment on fait pour savoir la priorité des gens? On le sait par deux choses. Le temps qu'ils investissent dans quelque chose et l'énergie qu'ils déploient. C'est ça les deux tests pour les priorités. Fait qu'on a beau dire, qu'on aime Jésus de tout notre cœur, qu'on aime le Seigneur, qu'on est croyant. La validation finale de cela, c'est par l'énergie que vous déployez à cette tâche-là puis le temps que vous y mettez. C'est comme ça qu'on le valide. Fait que souvent, on va se créer des illusions dans notre pensée en croyant que nous, on est vraiment spirituels, nous, on a des priorités, parce que nous, vous savez, on est croyants, on aime Jésus, mais ça n'est pas validé dans la réalité de la vie de tous les jours. Par ces deux éléments-là, l'énergie qu'on déploie et le temps qu'on y passe. Cinquièmement, rechercher le royaume de Dieu. La Bible dit, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Attends, le texte ne mentionne pas. Passez votre vie à rechercher toutes ces choses-là, puis peut-être qu'à la fin, vous rentrerez dans le royaume des cieux. Le texte fait allusion à renverser la vapeur. À place de mettre mon énergie sur ces choses-là, je vais mettre mon énergie sur le royaume de Dieu. Mais en ce moment, vous posez la question, « Ouais, mais ça veut dire quoi? Là? Vous dites, je vais juste rester chez nous à attendre, sans me tracasser, d'arriver au ciel? » C'est pas ça la pensée. La pensée derrière tout ça, c'est qu'on cherche les choses d'en haut. On cherche la volonté de Dieu. Le royaume, d'ailleurs, il y a un autre texte qui mentionne, à l'Évangile de Luc, chapitre 12, dit, « Soyez sans crainte, petit troupeau, Dieu vous a donné le royaume. » Et ça fait allusion à cette dimension du royaume qui est à l'intérieur de moi. Parce que le royaume, ce n'est pas juste une destination, c'est aussi un état. Nous sommes les enfants du royaume à l'heure actuelle. Donc, quand il parle de mettre l'emphase sur le royaume de Dieu, de chercher premièrement, c'est chercher premièrement à vivre cette vie que Dieu veut qu'on ait, à actualiser ce que lui veut placer dans ma vie, à ce que vous savez, comme je dis souvent, à vivre cette vie avec un grand V, cette vie spirituelle qu'il me donne, à la placer à l'intérieur de moi et à composer avec cette réalité-là. John Ortberg, un conférencier américain, a dit un jour, « Pour beaucoup d'entre nous, le danger qui nous menace n'est pas tant de renoncer à notre foi que d'être tellement préoccupés, absorbés et distraits par les autres choses que nous expérimentons une version médiocre de ce que la vie chrétienne devrait être. » Une vie à temps partiel, une expérience à temps partiel, une expérience du dimanche matin, mais qui ne se manifeste pas dans la vie de tous les jours, en dehors des circonstances, en dehors des murs de l'Église. Sixièmement, demandez aux musiciens de s'approcher tout doucement. Relâchez votre contrôle excessif. Relâchez le contrôle que vous exercez sur votre vie. Dans l'Évangile de Luc, encore une fois, au chapitre 12, le texte mentionne « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Regardez bien le texte, je l'ai souligné à l'écran. « Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? » Tout près de 2000 ans, un petit peu moins, Jésus a mis le doigt sur un des graves problèmes de l'humain. Par insécurité, son désir profond de contrôler toutes choses. En anglais, on dit « playing God ». D'ailleurs, j'amène une deuxième pensée qui va ressortir. Il disait, le texte mentionne, « Pour avoir la paix de l'esprit, donnez votre démission comme maître de l'univers. » Playing God, on se prend pour Dieu. On contrôle tout. On gère tout. Il y a des maris qui vivent dans des maisons où la dame contrôle tout. Tout. OK? Vous savez, on a une expression pour ça au Québec, on les appelle comment? Germain. Moi, je n'aurais jamais osé le dire publiquement, là, mais vous l'avez dit. Parce qu'elle gère, parce qu'elle met, parce que tout doit marcher comme ça. C'est comme tout est orchestré comme ça. Et bien sûr, le mari se retrouve ailleurs en train de gérer d'autres choses, au travail, au boulot, puis tout ça. On va tenter de gérer les pensées des gens. On dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Laissez-les penser. Le cerveau est autonome. Je ne peux pas commencer à gérer la pensée de 2000 personnes qui sont devant moi. Je prends des risques ce matin que vous me jugez. Mais ça, c'est votre responsabilité. Je ne peux pas contrôler tout ça. Vous voyez quoi le problème dans la vie? c'est qu'on tente de contrôler ce qui est incontrôlable, ce qui est impossible à contrôler, puis on oublie de contrôler ce qui est à notre portée. OK? L'expression québécoise, pour moi, de cela, c'est « lâchez donc les poignets ». Lâchez-les, les poignets. Essayez de tout contrôler. Vous savez, quand l'image qu'on a dans l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle communément le burn-out, l'image que j'ai à chaque fois, c'est l'homme au cirque, le prestidigitateur qui fait tourner des soucoupes sur les tiges. Une ou deux ou trois soucoupes, ça va bien. Là. Il a fait tourner, il a fait une, deux, trois. Mais vous savez, là, quand il va se rendre à 20, il ne pourra pas passer ses journées à les faire tourner les 20. Hein. Nous, le spectacle dure 3 minutes. Il y a des gens qui passent leur journée à faire tourner les assiettes comme ça, de bord, à arrêter par courir. Je comprends pas comment ça fait que je suis si fatigué que ça de ce temps-là. Parce que vous contrôlez des choses, vous n'êtes pas obligé de contrôler. Laissez les choses. Moi, ma pensée est la suivante. Regardez l'image que j'ai dans ma pensée. Moi, là, je tente de contrôler ce qui est à ma portée, ce qui est dans mon champ de juridiction, ce qui est à la portée de ma main. Il y a des choses que je dois faire comme parent. Pour ça, je suis en train de vous dire, soyez responsables. Payez pas vos impôts. Payez pas vos comptes. Laissez-vous. On n'a pas besoin de ça. C'est pas ça qui est important. La réalité est la suivante. Je contrôle ce qui est à ma portée. Je dois assumer ma responsabilité sur ma juridiction. J'ai la liberté de choisir, de faire des choses. Mais ce qui est au-delà de ma main, vous savez, là, il n'existe pas, surtout pour les parents, de manette pour téléguider nos enfants. OK? Il va aller par là, il va aller par là, il va faire ci, il va marier. On va l'envoyer marier. C'est celui-là qu'il faut que tu maries, là, pas l'autre, là, OK? On ne peut pas faire ça. Et ce qu'on vit dans des moments comme ça, c'est qu'il faut relâcher, puis on vit un petit peu d'anxiété parce qu'on se dit, faut laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Je peux influencer, je peux conseiller, mais je ne peux pas programmer. Je ne peux pas contrôler à ce point-là. Il faut que je relâche des choses. Et c'est sûr que c'est un risque, mais c'est un élément de croissance extraordinaire pour chacun de nous aussi. Êtes-vous toujours là? J'essaie de vous contrôler, puis ça va, vous êtes encore là. Septième et dernière clé, reposez-vous à la puissance de la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, un verset que vous connaissez fort bien, dit « Ne vous inquiétez de rien. » En fait, le texte ne vous dit pas « Ne vous inquiétez de rien. » Le texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais à la place de vous inquiéter. » En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, chaque soir, je donne à Dieu toutes mes inquiétudes. D'une façon ou d'une autre, il reste debout toute la nuit. Hein? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Dieu ne se couche pas, OK? Non, Seigneur, moi, il faut que je danse. Je suis de te laisser comme ça, mais pourrais-tu t'occuper de régler une couple de choses pendant ton chiffre de nuit, s'il te plaît, afin que je puisse demain matin me retrouver quelque chose d'un petit peu mieux dans ce à quoi j'ai fait face dans la vie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. Oui, mais ça ne marche pas aussi simple que ça. On parle pas d'intelligence, on parle de quelque chose qui est plus que l'intelligence, qui surpasse. Écoutez, il faudrait que vous soyez un peu rationnel ce matin, M. Morissette, il y a des problèmes graves dans cette humanité, je sais. Mais moi, je parle d'une paix qui transcende les circonstances. Je sais que je devrais me tracasser pour telle chose. Je sais, quand je pense à la vie, je sais que peut-être en ce moment, mon taux de cholestérol, je sais qu'il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais la vie, c'est plus que ça. Je ne peux pas passer ma vie à me battre contre toutes sortes de choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Je vais contrôler ce que je peux contrôler, mais je veux vivre cette paix qui surpasse l'intelligence, cette paix qui, en dépit des circonstances, en dépit du fait que je ne comprends pas comment ça devrait être paisible dans cette situation-là, en dépit du fait que les choses se passent peut-être pas comme je voudrais, parce que j'ai une paix qui vient garder mon âme. Une paix qui promène mon Dieu. Je lui ai fait part de mes besoins. Je lui ai fait part de mes situations. Je l'ai fait par des prières. Je l'ai fait même par des supplications. Seigneur, tu sais comment c'est important, ça, cette situation-là. Ces choses-là. Mes enfants, mon épouse, mon mari, mon emploi, ce que je vise, mes rêves, Seigneur. Maintenant, je les ai fait connaître. Maintenant, je me repose en toi. Je t'aimerais de toi faire l'œuvre que tu désires faire. Vous savez, quand vous expérimentez cette paix-là, comme toute maladie, vous découvrez des symptômes. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. Les symptômes de la paix intérieure. Une tendance à penser. Si vous avez la paix, c'est pas vous allez découvrir ces symptômes-là dans votre vie. Une tendance à penser et à réagir de façon spontanée au lieu de se cantonner dans la peur. Une indubitable tendance à profiter pleinement du temps présent. une perte significative dans la tendance à juger les autres. Ça, c'est les manifestations de la paix. Une perte du désir de se rabaisser constamment. Une perte d'intérêt à constamment interpréter les faits et gestes des autres. Une inaptitude définitive pour les inquiétudes. Des épisodes fréquents d'appréciation. Une habitude compulsive de sourire. Une tendance inhabituelle à laisser les choses arriver au lieu de tout contrôler. Ah? Une susceptibilité à étaler notre amour et à le répandre. L'expérimentation de périodes répétées de nuits réparatrices et sereines. Ça, c'est la paix intérieure. La Bible dit, et Jésus le dit, mettez de côté vos fardeaux. Jésus a dit un jour, en se promenant devant les multitudes qui étaient oppressées par les conditions sociales, par leurs conditions personnelles, par leurs conditions familiales, par tout ce qu'ils vivaient, Jésus a vu le fardeau de leur vie, il a vu leurs conditions, il a vu leur état, puis il leur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ce repos-là. » Le Jésus avec lequel on vit, ce Jésus qui a sauvé ma vie, qui réchappe ma vie, qui m'offre un autre genre de vie, il n'est pas un Jésus qui met des fardeaux sur mes épaules. C'est un Jésus qui porte les fardeaux ou qui les relève de mes épaules. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger. Et mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. En conclusion ce matin, pendant que ce chant-là va commencer, le chant qu'on a chanté un petit peu plus tôt, j'aimerais pouvoir vous faire avancer en avant puis porter vos fardeaux. J'aimerais ce matin qu'à la place où vous êtes en ce moment, que vous vous détendiez tout doucement quelques instants, comme si vous relâchiez ces fardeaux-là. Vous savez ce à quoi vous avez fait face et avec lequel vous composez à chaque jour. Vous savez ces situations même parfois très douloureuses que vous vivez en ce moment. Vous avez le choix de les porter toute seule, tout seul. Vous avez le choix de vous laisser submerger par tout ça. Ou bien ce matin, vous avez le choix juste de déposer ça. En disant, Seigneur, moi, je relâche ça ce matin. Je suis fatigué de porter ça. Je suis fatigué de traîner ça. Je suis fatigué de traîner mon passé, de traîner ma famille, de traîner mes parents, de traîner mon emploi, de traîner mon patron. Je suis fatigué, Seigneur, de me traîner moi-même. Mais Seigneur, en ce moment, je vais déposer ça à tes pieds. Seigneur, je vais juste à ma place, tout ce que je suis en ce moment. Tu as dit, Seigneur, je te remets ces fardeaux-là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Prenez ce temps pour juste relâcher ces choses dans votre vie. Alléluia, Jésus. Alléluia,
Seigneur.
Alléluia.
Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le sang de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix.
Pendant que tous vous avez les yeux fermés ce matin, je vous demande de rester temporairement dans cet état de quiétude. Parce que dans quelques minutes, vous allez ressortir de cette enceinte, de cette église, et retrouver toute la rapidité de la vie qui se manifeste à l'extérieur. Mais en conclusion de cette journée, de cet avant-midi plutôt, vous savez, quand on est des enfants et qu'on vit nos drames d'enfants, c'est toujours rassurant de pouvoir aller se blottir dans les bras de papa et maman en disant, mon père est le plus fort, ma mère est capable, ma mère va régler toutes ces choses-là. Parce que dans notre entendement d'enfants, on est dépassé souvent par tout ce qui nous arrive, les petites tristesses, les déceptions de l'enfance et tout ça. En ce moment, ce matin, on est un peu comme des enfants avec Dieu et On peut aller auprès de lui, on peut se blottir tout doucement dans ses bras en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin que tu fasses une œuvre dans ma vie. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de déposer à tes pieds mes inquiétudes. J'ai besoin de sentir que tu es là pour moi. Et je sais ce matin, je crois ce matin que tu sais ce dont j'ai besoin réellement. Et tu vois ces fardeaux, ces besoins, ces situations qui m'apparaissent impossibles à résoudre, Seigneur. Mais je les place devant toi ce matin. Et pendant qu'on va le chanter une dernière fois ce matin, faites-le. À l'endroit où vous êtes en ce moment, cette décision du cœur, cette décision de votre volonté en disant, Seigneur, je te remets ces choses auxquelles je n'ai pas de pouvoir. Je relâche tout ça. Je relâche tout ça, Seigneur, comme si je laisse aller les choses, Seigneur, puis je fais juste me reposer. Je prends le risque de me reposer entre tes mains et de me blottir dans tes bras en sachant que toi, tu es plus grand que moi et toi, tu es plus puissant que moi. Et je viens à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame.
On peut se lever ensemble, on va terminer chanter ce chant. Je me blottis dans le creux.
Je me blottis dans le creux.
Alléluia.
De tes bras.
Alléluia.
Rassuré par le sang.
Soyez rassurés par le Seigneur ce matin.
Je me blottis dans
Alléluia.
Le creux de tes bras.
Alléluia.
Assuré par le sang de ta
Tu es merveilleux, déclarez-le ce matin.
Tu es merveilleux.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.